Forain, je vous aime. Bonjour tout le monde. Ce soir, je voulais passer un coup de gueule et un cri d'amour. À une époque où tous les acquis sont remis en question, où toutes les traditions sont battues en brèche, où toutes les richesses sont accaparées par une minorité de gens, on pourrait attendre aujourd'hui des politiques d'agir pour freiner ces évolutions. Ils essayent souvent de le faire, faut pas toujours leur jeter la pierre. Et je connais des politiques très engagés dans ces combats-là. Mais parfois, franchement, ils travaillent pour le grand capital. Je fais cette émission pour alerter qu'une profession ancestrale disparaît petit à petit et qu'il faut absolument la défendre. Ce sont les forains, les artisans forains, les industriels forains. Vous connaissez ? Ces gens à part qui s'accrochent à leur identité ancrée depuis des générations et probablement depuis des siècles. Je suis allé hier à Cronenbourg revoir des potes forains qui vivent en caravane. Toujours joviaux, toujours accueillants, j'ai ressenti des familles vivant vraiment dans un stress, une angoisse, inquiètes pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Pourquoi cette peur du lendemain ? Parce que, après l'épidémie, l'arrêt de leur tournée, ils craignent chaque année que le marché de Noël de Strasbourg soit remis en question. Et en particulier, qu'il soit remis en question pour les 5 prochaines années. Depuis l'alternance, les rumeurs les plus folles leur ont fait croire que les places de l'hypercentre n'allaient plus les accueillir pour les prochaines années. Je veux dire ici que supprimer leur droit de place, exploité depuis des décennies, revient à remettre en question leurs équilibres économiques et à les supprimer tout court. Savez-vous que le marché de Noël représente près de 35 à 40% de leurs revenus et leur permet de vivre l'hiver? Cette réalité économique doit être connue de tous les politiques. Bien sûr, nous savons tous que le marché de Noël doit évoluer, mais pas au prix de faillite d'entreprise. Surtout, il doit évoluer avec les forains, pas contre les forains. L'art de la politique est de changer la société. Oui, elle doit changer, mais avec les citoyens, avec les acteurs, pas contre eux. Qu'ils doivent faire évoluer leurs prestations, évidemment, ils en sont d'accord. Ils le font chaque année depuis des lustres. Mais de leur demander d'aller poser leur chalet dans les quartiers périphériques revient à les tuer. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une évidence économique. Et puis, pourquoi ne pas demander à Hermès de le faire ? Demandons aux Galeries Lafayette de poser leur belle vitrine au Neudorf. Et vous qui m'écoutez, accepteriez-vous qu'on vous supprime 90% de vos revenus ou de votre chiffre d'affaires du mois de décembre ? Les Strasbourgeois aiment les forains. Ils veulent les voir dans un écrin magique. Ils veulent perpétuer la tradition du Christkindlesmärk. J'ai toujours du mal à lire. Et les forains en sont l'essence même. Les commerçants aussi ont besoin d'eux et de leur pouvoir attractif. Les forains en particulier attirent des familles, public absolument essentiel et cohérent avec l'idée de Noël. Savez-vous que certains forains alsaciens, oui, ils sont alsaciens, comme moi, comme vous, sont la 7e génération de forains. Alors laissons la 8e génération prendre la relève et continuons le rêve qu'ils apportent à chaque fête. Attaqués dans leur fierté, ils ont l'impression souvent d'être méprisés par les municipalités. Et pas que à Strasbourg, dans tous les villages. Je veux profiter de ce micro pour lancer un message préventif à l'équipe municipale. Pour les prochaines éditions du marché de Noël, je pense qu'il faut maintenir le marché en l'état. La politique de la nouvelle mairie, depuis un an, laisse penser qu'il va falloir être vigilant. J'adore d'ailleurs l'idée que les forains ont des camions de gros tonnage, des chars d'assaut non armés. Ça facilite la vigilance indispensable. La mairie s'intéresse-t-elle plus aux beaux quartiers qu'aux petits acteurs économiques comme les forains ? Franchement, La politique doit être douce, intelligente, basée sur le dialogue, le travail en commun avec les acteurs du terrain. L'ancienne majorité, je veux le dire ici, dont les Verts faisaient partie, avait noué un dialogue très riche avec les forains, basé sur un respect mutuel. Aujourd'hui, les forains doivent rester très vigilants, nous devons rester très vigilants, afin que le marché de Noël ne leur échappe pas. Peut-on supprimer 400 ans d'histoire ? Je reçois avec un grand, grand plaisir un artisan forain, Patrice Skinner, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le rituel de cette émission consiste à ce que mon invité prononce le titre de l'émission, Qui suis-je ? Et se présente.
Qui suis-je ?
Alors, qui es-tu ? Alors, je dois, avant que tu prennes la parole, je dois dire que le rituel, un des rituels de l'émission est que je te tutoie, je tutoie mes invités. Ce n'est absolument pas un manque de respect. En hébreu, le tutoiement n'existe pas, en anglais non plus. Et je trouve que c'est tout simplement se mettre à égalité, de manière fraternelle. C'est pour ça que je tutoie mes invités, quels qu'ils soient. Alors, qui es-tu, Patrice ?
Je m'appelle Patrice Skinner, je suis forain, je suis né en 1972 à Strasbourg, j'ai grandi à Oberhasler, un petit village dans la vallée de la Hazel. Mon papa est forain depuis 6 ou 7 générations, ma maman est institutrice. J'ai étudié au collège à Mutzig dans un premier temps, ensuite au lycée Henri Meck à Molsheim. Okay. J'ai eu mon bac en 90. Ensuite, j'ai laborieusement entamé des études en sciences économiques à l'ULP Strasbourg.
Oh, tu dis laborieusement, mais avec efficacité, puisque tu as une licence d'économie.
Oui, semble. Au bout de 6 ans. Donc c'est un peu laborieux,
ouais,
quand même.
Oui, au bout de 6 ans, mais il faut dire les choses. Au bout de 6 ans, parce que tu travaillais.
Effectivement, j'ai toujours participé à l'exploitation familiale, oui. Notamment dû au fait que mon père a eu une opération gravissime en 89, qu'il a laissé sur une chaise pendant 6 mois, et enfin même hospitalisé pendant 6 mois.
Et qui t'a obligé donc à
mener à bien l'affaire familiale.
En plus de tes études.
En plus, oui, c'est même dans ces périodes-là que j'étais en terminale et j'ai passé mon bac, et je l'ai réussi au rattrapage. Mais voilà, mes parents m'en ont pas voulu, étant donné que je bossais énormément le soir et le week-end.
Très bien. Et donc, après tes études, tu es revenu, je dirais, dans l'exploitation familiale, on peut dire ça comme ça ?
Oui, disons, quand on a bercé dans ce métier-là depuis tout petit, en même temps, on l'aime, et en même temps, c'est un peu une facilité, on reprend un peu l'activité de papa, et voilà, fallait subvenir aux besoins familiaux. Je me suis marié, j'ai eu très rapidement un petit garçon, donc voilà, faut bosser, faut gagner sa vie, et faut faire vivre une famille.
Alors, quel manège as-tu ? Mais la vraie formule, c'est pas quel manège, c'est quel métier as-tu ? Puisque dans la comité foraine, un manège s'appelle un métier, hein, il me semble.
Tout à fait, c'est
alors,
ça.
Alors, quel métier as-tu ?
Alors moi, j'ai plusieurs métiers. On peut dire manège aussi, hein, pour que les auditeurs comprennent. Je suis dans une catégorie...
Oui, mais je trouve que le mot métier est très intéressant.
Oui.
Parce qu'il montre la complexité. De tenir, de gérer un manège. Ce n'est pas que des voitures qui tournent, c'est bien plus que ça. C'est très compliqué à tenir, à gérer et à maîtriser. Donc je trouve que le mot métier, moi je le trouve magnifique.
Puis en plus il va bien parce que bon, finalement le métier de forain, c'est plusieurs métiers.
Oui, hein, totalement.
On est transporteur routier, on est manutentionnaire,
ouais,
on est électricien,
routier,
on est plein de choses.
Menuisier,
à la fois.
Menuisier, ferronnier.
Voilà, on est. C'est certains aiment bien l'appellation artisan forain. Pour d'autres, ce qui est sur les documents administratifs, c'est industriel forain.
Alors tu dis artisan forain. Là, on est plus dans la présentation de Patrice. On est déjà en train de parler du de l'univers forain et du de voilà. Mais je trouve que on parle d'artisans forains, mais évidemment, vous n'êtes pas lié à la Chambre des métiers d'Alsace. Vous êtes lié à la Chambre de commerce. C'est une erreur, c'est une ineptie. Vous êtes vraiment des artisans. Vous êtes des vraiment, je le redis parce que ça doit être vraiment su. Vous êtes des artisans, vous êtes des électriciens, des menuisiers. Vous avez et pourtant vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit à cette appellation d'artisan et à tous les avantages qui sont liés à cette appellation.
Complètement, complètement. Et effectivement, artisan dans le sens où, bien sûr, quand c'est des grands manèges à sensation, on a des entreprises spécialisées qui les fabriquent. Par contre, tout ce qui est petite amélioration, etc., c'est nous qui faisons. Notamment, quand on parlait du marché de Noël précédemment, nos chalets, on les construit pour la plupart nous-mêmes. Mmh. Voilà.
Et donc, tu disais que tu avais combien de métiers ?
Alors, moi, j'ai trois manèges à sensation. J'ai un grand manège qui monte à 35 mètres de hauteur. On appelle ça un booster avec une nacelle aux deux extrémités.
Elle est où ? Est-ce que tu es où ?
Alors, pour le moment, enfin le week-end prochain, nous sommes à Stirain-Vendel, à côté de Forbach.
D'accord.
Et donc là, j'ai deux attractions qui sont installées là-bas.
Super. Et donc, tu as trois métiers qui tournent dans tout l'est de la France. Hein.
Oui, ça va de Besançon au Luxembourg.
D'accord. Et à côté de ça, tu suis une évolution assez forte chez les forains. Je dirais pratiquement vous sédentariser et d'exploiter des commerces donc fixes hein, donc restaurants, bars, mais pas que hein, boulangerie, etc. Tu as, il me semble, un restaurant.
Alors, on a repris l'exploitation d'un restaurant au début de la vallée de la Bruche en associé avec également un forain, donc on est deux sur l'affaire et on a occupé notre interdiction de travailler qui a commencé donc oui. L'année dernière depuis le 27 octobre et qui s'est terminée le 9 juin de cette année et pour rénover, améliorer et donc refaire un restaurant qui s'appelle L'Achetube à Ligenberg.
Super. Alors j'ai une question, tu as deux enfants ?
J'ai quatre enfants.
Quatre enfants, excuse-moi, j'ai pas suivi, c'est pas bien. Penses-tu que un ou plusieurs de tes enfants vont reprendre tes manèges ?
Alors, l'aîné qui vient d'avoir 21 ans hier a malheureusement abandonné ses études de sciences économiques et il travaille pour le moment avec moi. Par contre, il n'y a aucune certitude sur la reprise, c'est une éventualité. Il ouvre les yeux, il regarde un peu ce qui se
D'accord.
fait autour.
Tu as dit malheureusement parce que tu le regrettes.
J'aurais souhaité qu'il continue
ses
études et qu'il aille un petit peu plus loin et que ça lui donne la possibilité d'étoffer son choix pour l'avenir.
D'accord. Et les autres enfants, tu les vois déjà aller vers les métiers de forain ?
Ensuite, j'ai des jumelles qui viennent d'avoir 19 ans, qui viennent, à ma grande satisfaction, de passer en deuxième année de fac de droit. Elles n'ont pas fait comme papa, elles n'ont pas redoublé la première année. Et donc, a priori, elles sont assez portées sur les études, elles ont plein d'ambition et elles ne se... Comment dire ? Elle n'envisage pas de reprendre le métier.
D'accord. Moi, je pense que le jour où un forain deviendra avocat ou expert comptable, il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, hein, il me semble, énormément, hein, puisque vous travaillez beaucoup en réseau. Il y en a d'ailleurs probablement déjà, mais je ne les ai pas croisés. On va faire une petite pause musicale. Avec une chanson, une chanson que j'adore, une chanson avec Alain Delon et Dalida.
Mais c'est vrai qu'à ce sujet, j'aurais préféré que tu passes une autre chanson, qui est une chanson que j'adore, que ma femme m'a fait écouter il n'y a pas longtemps, de Gilbert Bécaud, c'est en septembre.
Ouais.
Et j'aurais bien souhaité que, parfois, que tu la passes, dans le sens où on parlait du marché de Noël juste avant, et qu'il est vrai qu'on a eu un petit souci les dernières années avec le tout sécuritaire de la préfecture, d'avoir des mécontents, les gens qui habitent au centre-ville, qui sont mécontents par les désagréments. désagréments causés par la présence du marché de Noël. Et quelque part, je trouve que c'est un beau texte qui est dit par Gilbert Bécaud sur les désagréments des gens du Sud qui en ont un peu marre de voir arriver les hordes de touristes tout l'été. Et voilà, et c'est un problème qui est récurrent depuis des décennies. Fait. Et quelque part, il faut un peu relativiser les choses.
Alors,
J'en appelle à la tolérance de
bien sûr, bourgeois. Oui, absolument. J'invite donc tout le monde à la fin de l'émission à écouter Gilbert Bécaud.
7 en septembre.
Voilà. Et en attendant, on va écouter Alain Delon et donc Dalida pour une chanson extraordinaire. Delon a une voix, mais a tombé. Parole.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
C'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais.
Comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
T'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Voilà, nous retrouvons notre forain, artisan forain, restaurateur. Patrice Kiner. Alors Patrice, nous sommes à la veille de ce formidable moment de joie. Le marché de Noël de Strasbourg qui revient dans quelques semaines, qui est déjà dans vraiment tous les esprits, je pense. Et je voudrais savoir si tu t'es bien préparé et si, avec l'ensemble de tes collègues forains, vous êtes prêts à nous accueillir, quoi, pour venir faire la fête.
Oui, bah écoutez, tous les voyants sont au vert. C'est vrai qu'on a eu pas mal de réunions constructives avec la nouvelle municipalité. On avait énormément de craintes en 2020 et par rapport à une certaine volonté d'excentrer le ouais. marché de Noël en périphérie et puis de supprimer une partie des chalets. Finalement, il y aura le même nombre de chalets. Le marché de Noël se retrouve dans l'hypercentre, c'est notre plus grande volonté. Et la place Broglie va être un petit peu divisée. Il y a une petite partie des chalets qui vont se retrouver place Kléber, qui est quand même commercialement une place, je pense, hyper intéressante. Voilà, malgré énormément de craintes, on est tombé sur des gens qui ont su être à l'écoute. Alors bien sûr, il faut rester vigilant, on va voir ce qui va se passer à l'avenir. On espère que la communication va battre son plein. On espère qu'il y a de l'argent qui vont être investis. Ouais. Va être investi là-dedans.
Alors, on va revenir sur la communication du marché de Noël à la fin de l'émission. Et je crois aussi qu'il y aura des chalets quai des Bateliers, il me semble.
Quai des Bateliers, a priori, oui. Il y a,
c'est une première,
si vous voulez, il y a une contrainte imposée par la préfecture de pour pouvoir supprimer les checkpoints, il fallait un peu diluer, si vous voulez, le marché de Noël pour créer des allées, dédensifier, voilà, c'est un mot un peu compliqué, le marché de Noël. Donc, la nouvelle municipalité avec les forains ont travaillé en collaboration, même si des fois ça grinçait un peu des dents.
Oui, c'est normal.
Bon, il y a eu, chacun a fait un pas vers l'autre, et je pense qu'on devrait avoir une solution qui me paraît.
Alors, j'ai le temps tourne malheureusement. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de l'univers forain, de l'identité foraine, qui me semble être si riche et vraiment riche et précieuse, parce que je pense qu'elle est remise en question. J'ai une première question. Pourquoi vivez-vous en caravane ? Bon, tous les forains ne vivent pas en caravane, mais je pense qu'il y a une majorité. Pourquoi en caravane encore aujourd'hui ?
Ben, c'est une profession itinérante. Donc pour moi, la caravane, c'est un outil de travail. Quand on fait des bonds de plusieurs centaines de kilomètres, pour certains, même parfois une petite centaine, ben, c'est plus aisé de dormir sur place que de rentrer chez soi.
Et certains m'ont dit que la caravane faisait référence en fait à ce qui se passait il y a bien longtemps, où souvent on demandait aux forains de déménager. Et en fait, ils restaient en caravane parce qu'ils s'apprêtaient à devoir à tout moment partir. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas dans les gènes en fait, qui n'est pas dans l'identité profonde des forains, et qui explique aussi que certains vivent, donc ont des caravanes pour se déplacer professionnellement, mais après, d'un point de vue privé, demeurent en caravane.
Bon, après, il y a des habitudes, il y a des différentes coutumes. Maintenant, je veux dire, dans notre profession, il y a plein de gens différents qui voient les choses différemment. Maintenant, je peux parler de mon point de vue à moi. Mon point de vue est le suivant. Voilà, il y a par nécessité, des gens vivent toute l'année en caravane parce que c'est souvent des forains qui voyagent dans toute la France et ils n'ont pas la possibilité de se sédentariser. Quand vous avez des forains qui font un périmètre plus réduit de forains, qui tournent autour d'un point de chute de 50 ou 100 km, souvent ils se retrouvent à apprécier habiter dans un appartement ou une maison.
Bien sûr. Peut-on dire que les forains ont un véritable problème de reconnaissance vis-à-vis de la société, reconnaissance vis-à-vis des administrations, des élus, reconnaissance aussi vis-à-vis de la banque, des experts comptables. Y a-t-il là un vrai problème que moi je qualifierais de racisme ?
Si vous voulez, c'est plutôt une méconnaissance. Souvent, il y a des a priori quand les gens ne connaissent pas notre profession oui. et les forains.
C'est juste,
et
totalement.
Il suffit de rencontrer un forain, de parler avec, de passer du temps avec, et je pense que tout ça disparaît. Voilà.
Je veux dire juste une expérience personnelle. J'accompagne d'un point de vue professionnel parfois certains forains, et j'ai l'exemple de deux jumeaux qui sont rentrés tous les deux dans une même banque, mais l'un dans une agence et l'autre dans l'autre agence. L'un est tombé sur un banquier extraordinaire qui aimait les forains, qui n'avait strictement aucun a priori, et l'autre est tombé sur quelqu'un qui ne les aime pas. Il me l'a dit, c'était clair, c'était une évidence. Et ce problème de reconnaissance, je pense, est une réalité de notre société que les forains ne doivent pas accepter absolument. Parce que vous êtes des gens de parole et je pense que c'est aujourd'hui devenu tellement rare. J'ai encore une petite question qui m'a toujours heurté un petit peu. Pourquoi chez les forains, si peu d'enfants font des études ? Est-ce que tu as une explication, Patrice ?
Ben, si vous voulez, justement, les déplacements peuvent contraindre la scolarisation.
D'accord.
Alors, avant le collège, c'est assez simple. On peut scolariser les enfants au niveau des écoles primaires, de ville en ville ou de foire en foire. À partir du collège, ça complique un petit peu les choses. Alors, certains ont la force de caractère, si je puis dire, de mettre leurs enfants en pension, mais c'est assez compliqué, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Donc, dès lors où ils ne souhaitent pas les mettre en pension, la scolarité devient plus difficile et la facilité est de travailler encore une fois avec les parents.
Puisque nous sommes sur Radio Judaïka, j'ai croisé dans ma petite carrière des dizaines de forains et j'ai toujours été impressionné par l'image que les forains avaient de la communauté juive, qui est une image extrêmement positive. Il y a une sorte d'admiration. Et tu as une explication à cela ou... je veux dire, par exemple, que le premier forain que j'ai croisé dans ma vie portait une étoile juive en pendentif, hein, une grande étoile juive, hein, pas une petite, hein, une énorme étoile juive. Je ne vais pas donner son nom au micro, mais ça m'a toujours vraiment marqué. Et j'ai toujours ressenti une estime réciproque, mais vraiment réciproque, entre la communauté foraine et la communauté juive. Je voulais vraiment le dire là, et c'est probablement une des raisons essentielles qui explique cette émission, d'ailleurs.
Oui, écoutez, les forains sont des gens tolérants, parce qu'on rencontre énormément de gens différents, oui. Et c'est vrai qu'on a tendance, avant de juger, à essayer de les connaître et de les comprendre. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un rapport à l'histoire ? Les Juifs ont beaucoup souffert à travers l'histoire.
Les forains aussi.
Les forains, peut-être ce côté itinérant. Le mot forain vient d'ailleurs d'une racine latine foranus qui est étranger. Donc, quelque part, on est toujours un peu des étrangers de la cité.
D'accord.
Les Juifs, à travers l'histoire, ont été un peu...
Aussi, des étrangers étrangers des cités.
Des cités, voilà. Donc, est-ce qu'il y a... J'ai jamais véritablement pensé, mais c'est vrai qu'en discutant, il y a peut-être un rapport à faire
d'accord.
à ce niveau-là.
Merci, Patrice. Alors, pour terminer cette émission et pour être constructif, pour croire en l'avenir... Je vais proposer ce que je ferai très rarement. Je vais proposer une campagne. Eh oui, une campagne. Je vais lancer une campagne sur les réseaux sociaux à destination de tous les Européens. Une campagne qui s'intitule « À Strasbourg, on vous aime ». Pourquoi cette campagne ? Parce que je pense qu'il est fondamental que le marché de Noël de Strasbourg, Strasbourg, capitale de Noël, reste et demeure un événement collectif immense et qu'il faut qu'il y ait un maximum d'Européens qui viennent visiter notre marché de Noël. Alors, à l'époque où on parle de décroissance et où on essaye d'éviter qu'il y ait des bus, des trains, des voitures qui ne circulent, je pense que l'idée de défendre le marché de Noël, de d'augmenter sa fréquentation est essentielle. J'appelle ainsi tous les auditeurs à signer et à partager cette campagne qui s'appelle « À Strasbourg, on vous aime ». Vous allez sur Internet trouver la pétition, la page Facebook que je vous invite à signer, à partager. Et je vous invite à envoyer à toutes vos relations en Alsace, en France, en Europe, les liens pour que le marché de Noël de Strasbourg passe de 2 millions de visiteurs à 3 millions et non pas à 1 million. Merci et à la semaine prochaine. Merci Patrice.
Merci.